me.
Thank you.
au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Alors ça n'a pas changé, Urbi comme Orbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Joël Guéraud.
Oui.
La carrière va partir comme ça, brusquement, hein.
Ouais. Alors là, oui,
avant toute chose, Joël, je première. Te présente Monique en cabine. Oui. Monique Main d'Acier, hein, qui n'hésite pas, lorsqu'un disque ne lui plaît pas, le briser entre ses mains. Voilà, donc j'ai vu que tu risquais de la contrarier tout à l'heure, fais attention à toi.
Oui,
d'accord.
Bon, on va tenir à carreau.
Bon.
Hein.
Mais... Alors, L'Homme sans horizon, c'est publié chez Libertalia.
Oui.
Hein, d'accord.
Bah, déjà, un excellent éditeur.
Alors, ça, je voulais dire, déjà, il faut les féliciter.
Oui, et il faut les féliciter d'avoir eu l'audace de publier mon livre, qui est assez épais. 300 pages,
oui.
C'est pas un livre de poche.
Oui.
Libertalia, un catalogue fourni oui. depuis longtemps.
Jack London, c'est pas mal.
Jack London, c'est excellent,
quand
bien
je dis
sûr.
C'est pas mal,
oui,
c'est
oui,
Jack
oui, oui.
Ils étaient dans la rue, à la manifestation du 5. Je sais pas
ah,
si
oui.
tu as vu, il y avait leur
non,
stand.
J'étais,
donc, un, bravo.
Pas à Paris. J'étais
ah, pas t'étais pas oui. à Paris, d'accord. Mais bravo, parce que faut, oui. c'est bien.
Oui, oui.
C'est bien d'être là. Qui reproche. Alors, leurs livres sont très bien faits.
Oui.
Aussi, parce que le tien n'était pas facile à faire. Hein,
oui.
Avec des italiques, avec
oui.
du corps,
oui.
du texte, etc.
Oui.
C'était pas facile à faire.
Oui.
Hein
oui. Et des italiques, des gloses,
oui.
Qui sont appelées par des signes particuliers, des alephs. Donc, j'ai essayé de varier la typographie aussi. Et je trouve que le résultat est remarquable.
J'ai
félicité le graphiste,
et c'est pas la
Bruno
Bartoviak. C'est pas la première fois d'ailleurs. Il faudrait quand même, petit reproche qu'on va leur faire, qu'ils montent une collection de poésie.
Oui, mais ils ont publié du Nerval.
Oui, du Nerval.
Oui, ils ont publié
ouais.
Les Chimères.
Il y avait une collection de poésie contemporaine chez Sileps d'antan.
Oui.
Je sais pas si tu la connais,
qui
était très belle
oui.
d'ailleurs, qui a disparu. Il faudrait qu'ils prennent la relève pour que ce soit dans la rue.
Oui, oui, je suis... bien d'accord avec ce projet, oui.
Donc c'est un livre qui tu passes combien de temps qu'est-ce qui t'a pris déjà de l'écrire, ce livre?
Oh, c'est venu en fait, c'est parti d'un sentiment, c'est de quelque chose que j'ai ressenti dans les années 2000, début des années 2000. Je me suis dit, mais les gens qui ont 15, 20 ans aujourd'hui n'ont absolument pas la même psychologie que nous avions toute une génération en 68 ou avant 68, puisque j'avais 15 ans en 68, donc je me souviens
de
ce
qui
s'est passé.
Mais tu es très vieux.
Oui, je suis un fossile vivant. Mais donc, j'ai cette... Et nous étions tous, indépendamment de nos convictions politiques, nous étions tous animés par un véritable élan utopique. On pensait qu'on pourrait changer radicalement la société. Et là, et effectivement, après 68, ça a perduré de longues années. Cette idée que devant nous, l'avenir était ouvert.
Alors, et je voulais retarder mon attaque frontale.
Oui.
Parce que c'était le point par lequel j'avais trouvé pour engager la conversation.
Oui.
On va le faire maintenant.
Oui.
On va le faire maintenant. Alors, c'est un livre où tu passes par l'économie, tu passes
oui.
par le politique, tu passes par la littérature aussi.
Oui, aussi,
hein?
oui.
Voilà. Alors, le problème, j'ai dit, bon, le problème entre toi et moi, c'est qu'on a des amis communs. On a Gerasim Louka, le vieux Blanqui, Breton.
Oui.
Il ne faut pas qu'on tourne en rond.
Non.
Alors, je me suis dit, moi, je vais me faire l'avocat du diable. L'idiot oui. du village, ce ne sera pas difficile, je te rassure.
Oui.
Hein? Mais aussi, en philosophie, ce qu'on appelle la conscience naïve.
Mm-hmm.
La conscience naïve, c'est-à-dire que tu as fait un livre extrêmement élaboré. Hein? Et brusquement, après je te raconterai une histoire vite fait, tu as quelqu'un qui arrive et qui te dit quelque chose et qui t'interroge.
Oui.
C'est absurde ou pas? Un jour j'ai fait une émission, on est en plein dans le sujet, rassure-toi. J'ai fait une émission avec deux êtres là, un comique, brut de décoffrage, le type qui était vraiment dans l'humour, mais le truc lourd, mais il me plie en deux, ça existe, et quelqu'un qui avait fait un livre extrêmement compliqué. Et dans ce livre compliqué, il prenait la fameuse phrase de Breton en exergue, sur le fond de l'esprit. Tu la connais, cette phrase de Breton, sur le fond de l'esprit, où plus rien, tu l'as, là, la phrase, où plus rien ne sera contradictoire, ni le haut, ni le bas.
Ah oui, ce point de l'esprit où le haut et le bas cessent d'être perçus contradictoirement, etc. Enfin, j'ai pas la phrase exacte.
C'est à peu près ça. Hein, et mon brut de décoffrage dit cette phrase, il dit « mais qu'est-ce qu'on va s'emmerder ?» Tu vois, qu'est-ce qu'on va... Donc c'est ça la conscience naïve. Oui. Et figure-toi, alors, on rentre dans le plein, tu pourras répondre là-dessus aussi, sur l'ennui et sur la phrase après. Hein. Et on va rentrer en plein dans le vif du sujet. Tu as été il y a quelques semaines chez Claude Brabant à l'usine.
Oui.
On s'est croisés.
Oui.
Il y avait une très belle exposition.
Oui, l'exposition Sven, hein, l'ancien compagnon de Claude Brabant. Et là, on voyait d'ailleurs des œuvres en couleur.
C'est beau, non ?
Ce qui était, oui, très très belle.
Ouais.
Et qui sont, puisque nous n'avons pas d'image ici, mais pour donner une idée aux auditeurs qui ne connaissent pas Sven, c'est un artiste qui se situait, puisqu'il est décédé, dans la lignée de Cobra et une certaine forme d'expressionnisme abstrait.
Mmh. Voilà. Il y a un très beau livre. Il y a eu un très beau livre.
Oui, il y a eu un très beau livre. Oui, oui.
Donc, je te raconte ma vie ce soir-là. On devait se rencontrer et j'ai été coincé à la Défense.
Oui.
Et là, on arrive en plein dans le sujet, rassure-toi. Et là, j'avais ton livre sur les genoux et pof, arrive un jeune black. Un jeune black, noir, très noir, il faisait froid, il était en petite laine, etc. Et il m'a montré un papier pour aller au squat de la chapelle qui venait d'être vidé.
Ah oui.
Et je l'ai regardé, il était très beau, très jeune et tout. Et je me suis dit, tiens, j'ai un livre sur l'utopie. C'est ça l'utopie, c'est l'utopie. Tu interviendras après j'irai finir. C'est ça l'utopie. Et je me suis dit, mais d'après le livre de Joël Guéraud, là, c'est quoi son utopie ? Est-ce que c'est quelque part où on va aller,
oui,
mais où ? Vers le bien, le pays du bien, où on ne sait pas. Ou alors, voir CF Joël Guéraud qui a un mauvais esprit, il va aller vers les montres en or, vers les écrans, vers les téléphones portables. Ça, c'est la première conscience naïve. Tu interviens après tout seul pendant une demi-heure. Et deuxième conscience naïve, toujours chez Claude Brabant. Il y a un ami là qui s'appelle Triboulet, je ne sais pas si tu le connais, Triboulet qui est là. Il me dit qui tu reçois à la radio. Je dis je reçois Joël Guéraud et je lui donne ce papier qui était un papier concernant la halle Saint-Pierre où tu es intervenu.
Oui.
Je lui donne, il va le lire et il me dit mais à côté chiant, c'est drôle. Et je lui dis oui, c'est ce que je pense aussi. Alors pourquoi je te raconte ça ? Parce que par rapport à ce désespoir, ce nom par rapport à 68, il y a une contradiction, il y a une grande contradiction, parce que tu prends un exergue de René Char, je le dirai après si tu veux, hein. Il sort de la guerre, René Char, les feuilles de l'hypnose, c'est 43-44, il peut avoir une conception du destin tragique de l'homme, mais ce que tu n'as pas toi, est-ce que tu n'as pas eu en 68 non plus ?
Non plus.
Est-ce que tu noircis pas le tableau à Essir ? Tu te débrouilles avec tout ça.
Alors à propos de cette idée, j'avais que donc commencé sur celle l'idée qui m'a donné le point de départ à la rédaction de ce livre, cette idée que l'utopie avait déserté les esprits et les consciences dans les années 2000, pour une bonne part des jeunes générations, et même pour je pense c'est un phénomène général, et je me suis penché sur cette question, sur l'absence d'utopie, le fait que les choses semblaient bouchées depuis longtemps. Il y avait eu le No Future punk, mais le No Future supposait qu'on avait quand même une conscience du futur, une conscience de cette absence. Et là, je trouvais une génération qui n'avait pas conscience...
Dans ta conscience d'homme occidental, civilisé et privilégié.
Certes, mais je parle d'ici, mais aussi... d'homme occidental, mais en même temps, je vois bien que ailleurs, c'est malheureusement à peu près la même chose. Par exemple, que penser d'un jeune Chinois déraciné de la campagne qui vient se faire exploiter dans les ateliers de Shenzhen. Eh bien, là, son avenir, il a été attiré. Est forcé de s'exiler, de faire cet exil intérieur, mais son avenir n'est pas non plus très enthousiasmant. C'est-à-dire que son avenir, ça va être un avenir d'exploitation.
Ah, et qu'est-ce que tu fais de mon jeune Black ?
Est-ce qu'il n'a pas l'espoir et l'utopie en lui ? Alors, c'est intéressant ce que tu me dis là, parce que ça me fait penser à des propos que j'ai entendus de la part d'un théoricien africain, Joseph Tonda, qui a écrit un livre que je n'ai pas lu, mais j'ai entendu une interview de lui à la radio, et j'ai lu une autre interview dans Le Monde, où Joseph Tonda a écrit un livre qui s'appelle La société des éblouissements. C'est et joli, il lit beaucoup de jeunes compatriotes, de jeunes Africains. Tonda, je crois, est congolais. Hein. Beaucoup de jeunes compatriotes, beaucoup de jeunes Africains émigrent vers l'Europe, et ils sont victimes d'une approche dystopique de l'Afrique. Pour eux, l'Afrique est une dystopie et l'Europe apparaît comme un horizon utopique. Mais ils arrivent là-bas, et là-bas, ils trouvent quoi ? La misère, l'exploitation évidemment est freinée, puisque ils vont pas être... ça va être justement en tant que sans-papiers. Hein, c'est la proie de tous les capitalistes qui les emploient sans vergogne, comme on sait bien, dans le BTP notamment. Et c'est dans le bâtiment travaux publics et donc et ailleurs et donc il regrettait cette attitude en disant bon, il y a une dystopie par rapport à, on voit l'Afrique comme une dystopie et en fait peut-être qu'il y aurait des choses à faire à l'intérieur. Et c'est vrai que le dispositif qui se crée là, hein, de l'émigration, alors je ne parle pas des émigrés politiques, des gens qui partent parce qu'ils sont forcés de partir pour sauver leur peau. Eux, c'est autre chose. Il y en a toujours eu, hein, l'exil politique. Mais cet exil économique qui fait qu'il y a comme un rêve européen qui se substitue au rêve américain.
Oui, mais à cet instant-là, est-ce que l'utopie n'est pas dans lui quand il passe les frontières, l'utopie est dans lui.
Elle est dans lui, oui. Mais c'est une utopie qui est effectivement qui n'est pas tout à fait la même que celle que j'envisage, qui est l'utopie humaine de dépassement de toutes les les aliénations, de toutes les exploitations, etc.
Quand Charles sort de la guerre, Charles a résisté, il n'a pas publié par la guerre, il a publié après. Quand il sort de la guerre, ils ont une utopie ou pas, ces gens-là?
Ah, certainement.
Parce que c'est quand même ta base, parce qu'à un moment donné, tu fais un portrait de ce qu'on vit actuellement, comme le pire du pire, c'est-à-dire c'est pire qu'après Hiroshima, ce serait pire qu'après la guerre, par exemple.
Alors, pire qu'après la guerre, après la guerre, justement, il y avait quelques espérances. Il y avait l'espérance, qui a pas duré longtemps, que peut-être sur dans les effets de la guerre, il pourrait y avoir une révolution. Hein, ça arrive souvent que les guerres sont suivies de révolutions. Mais on sait très bien que le Parti communiste français, fidèle à sa tradition, parti stalinien français, fidèle à sa tradition de traître à la classe ouvrière, a fait en sorte que tous les épisodes révolutionnaires qui avaient commencé à émerger, notamment dans le centre de la France, hein, autour de des FTP, de la figure de Guingouin, bien sûr, etc., ont été remis dans le rang, hein, et donc on a dit pas de provocation camarade, tout simplement. Le moment n'est pas venu de faire une révolution. Il faut.
17
il faut
est une utopie. 1917 est une utopie ou pas?
Ah oui. Alors 1917, c'est une ouverture utopique. 1917, qui commence en février. Il faut jamais l'oublier. La vraie révolution, c'est février. Et là, avec l'extension des soviets, les soviets qui sont les vrais conseils, qui ne sont pas encore noyautés par les bolcheviques, qui sont donc ces conseils ouvriers, paysans, les conseils aussi les conseils de soldats en Allemagne notamment, hein, on a ça également en 1918. Ces conseils qui sont la reprise du soviet de Petrograd en 1905, eh bien, il y a effectivement un formidable appel d'air utopique, alors qui sera brisé par les bolcheviques. Bon, il y a d'abord, j'en parle quand même abondamment dans mon livre, mais abondamment à un certain moment, j'en parle, il y a le coup d'État d'octobre, puisque là c'est pas vraiment une révolution, c'est un coup d'État sur fond de révolution réelle, hein, où les bolcheviques capturent le pouvoir et vont le confisquer très très vite, les premières victimes, ça va être les socialistes révolutionnaires et puis les anarchistes, on sait bien comment ça s'est terminé à Kronstadt et aussi pour le mouvement makhnoviste en Ukraine.
Israël, c'est une utopie ? Création d'Israël.
La création d'Israël, c'était aussi une utopie nationale dans la lignée des grandes utopies nationales du 19e siècle. Hein. Israël est un produit de la politique des nationalités. Hein, on a eu les nations après le démembrement de l'Empire russe et de l'Empire austro-hongrois, hein, on a eu un certain nombre d'États-nations qui se sont formés en Europe. Et Israël, c'est un peu la même. Ça provient de la même idée. Sur les ruines de l'Empire ottoman, établir des États-nations, et bon, pourquoi pas un État juif, hein, qui avait été l'idée de Herzl. Et il y a un sionisme d'extrême-gauche, hein, avec des figures comme Martin Buber ou Hannah Arendt, hein, qui ont été à leur manière des utopistes. Alors, l'État d'Israël était une utopie, bien entendu, et une utopie socialiste au départ.
Hein. Nous allons continuer cette discussion et descendre sans aucun problème. Il y a un sous-titre à ton livre. Hein,
oui.
C'est matériaux sur l'utopie. Alors,
oui.
on va y aller au hachoir. Hein.
Oui.
Il y a le mot matériaux, il y a le mot utopie. Hein.
Oui.
Et d'un bout à l'autre, je me suis demandé si tu n'étais pas, comme moi, encore une fois, comme d'autres
oui.
autour de nous, là, dans un vieux dilemme, celui de Breton, qui est nourri de Mallarmé, nourri de Huysmans, et qui veut chevaucher la révolution et le mouvement ouvrier, qui se retrouve chez les communistes au cercle du gaz, je crois,
oui,
une chose comme ça.
La cellule du gaz.
La cellule du gaz, pardon. Est-ce que c'est pas la même contradiction que Césaire, qui nous produit un texte magnifique avec le cahier Le Retour au pays natal, là, et qui, en tant que maire et député,
oui.
est obligé de se compromettre pour nourrir les Antilles,
oui.
C'est
oui.
ça. Est-ce que c'est pas la contradiction de, là t'as dit le mot Hannah Arendt, mais de Walter Benjamin qui essaye d'équilibrer Bertolt Brecht avec Gershon Scholem, c'est-à-dire la tradition
oui.
juive avec le matérialisme,
oui.
et puis on a le vieux Blanqui qui a fait la révolution, qui lève les yeux aux étoiles, etc.
Oui.
Est-ce qu'il y a pas quelque chose comme ça qu'on arrivera nous jamais? Jamais
oui.
à résoudre. Est-ce que c'est pas tout le sens de ton livre ? Tu essayes
oui.
de t'en dépêtrer.
Oui.
T'es comme moi, t'es comme
oui,
pas
oui,
mal de gens
oui.
et on
n'y
arrive pas. Oui, vas-y.
Oui, enfin, on essaye en tout cas. J'ai essayé justement dans ce livre, je vais peut-être aller un peu dans un sens inverse
vas-y,
de
vas-y,
toi.
Vas-y.
C'est-à-dire, mon objectif, l'un de mes objectifs dans ce livre, c'était justement de réunir dans le même livre des traditions qui souvent sont. Ne sont pas réunies. Et notamment, j'ai repris. Évidemment, derrière, il y a cette vieille reprise du slogan surréaliste de combiner à la fois le mot d'ordre de Marx, transformer le monde, et celui de Rimbaud, changer la vie. Mais c'est un peu c'est cela que je compte retrouver dans ce livre, c'est-à-dire raccorder les fils de ces traditions qui souvent ne s'interpénètrent pas, c'est-à-dire la tradition poétique et la tradition critique révolutionnaire.
On peut dire le mot politique.
Et politique. même au niveau politique, politique révolutionnaire. Je parle d'une politique non politicienne, bien sûr, ou d'une super politique.
Simonique n'a pas cassé le disque, on va essayer d'écouter un morceau.
Oui.
Haïtien, tu vois, voilà. Oui. Voilà, on va essayer là, Monique, elle n'a pas encore cassé le disque, oui.
D'accord, dans ses mains d'acier.
Léotontimorouménos, et je te frapperai sans colère et sans haine comme un boucher, comme Moïse le rocher. Et je ferai de ta paupière, pour abreuver mon Sahara, jaillir les eaux de la souffrance, mon désir gonflé d'espérance, sur tes pleurs salés nagera. Léotontimorouménos, 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 comme un vaisseau qui prend le large, et dans mon cœur qu'il sonneront. Ne suggère pas un faux accord dans la divine symphonie, grâce à la vorace ironie qui me secoue et qui me mord. Léotontimorouménos, 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 Léotontimorouménos. Elle est dans ma voix la criarde, c'est tout mon sens au poisson noir. Je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde. Je suis la plaie, le couteau, je suis le soufflet et la joue. Je suis les membres et la roue et la victime et les bourreaux. Léotontimorouménos, 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 Léotontimorouménos. Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés, au rire éternel condamné, qui ne peut plus sourire. Léotontimorouménos, 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 Léotontimorouménos.
Sur Radio Libertaire, Joël remercie quand même Monique d'avoir épargné ce disque.
C'est magnifique. C'est magnifique, Léotontimorouménos.
Ferré, ça te parle, Ferré ou pas?
Ah, beaucoup.
Beaucoup, Ferré, hein.
Oui.
Donc tu m'as dit que c'était un peu spécial parce que c'est un disque qui a été fait arbitrairement après sa mort. Ça a été enregistré chez lui. C'est son fils qui a enregistré. Mm-hmm. Et c'est très drôle. Et c'est magnifique. Il est au piano, c'est absolument magnifique. Mm-hmm. Et derrière, des fois, tu entends des cris d'enfants.
Ah.
C'est pour ça que la voix est un peu spéciale. Moi, j'ai été plus loin dans ta lecture, c'est-à-dire, le problème, on l'a tous, et c'est comme ça, le poétique, le politique. Mm-hmm. Et je me suis dit, en fin de compte, est-ce qu'il ne tourne pas autour du pot? Autour du pot sur quelque chose qui serait beaucoup plus simple. Mm-hmm. Tu as parlé de 68, de l'utopie 68. Est-ce que ce ne serait pas, par rapport à ce qu'on vit maintenant, et aussi la vie aventureuse d'un René Char, est-ce qu'on n'aurait pas perdu le corps? Me laisses finir, je vais te lire, je vais te lire, et après je te dirai autre. Je me suis dit, mais comment je vais arguer de ça, et je vais te lire, et j'ai trouvé le passage qui paraît pas anodin, mais un petit passage subalterne, ce serait le passage sur la musique.
Oui.
Hein? Et tu dis à un moment, n'oublions jamais que... Alors ça c'est arbitraire, mais je le dis quand même. Hein. N'oublions jamais que nombre de SS se targuaient d'être de fins mélomanes et s'attendrissaient entre deux sélections pour la chambre à gaz à l'écoute des leaders de Schubert. Ça, ça n'a rien à voir, mais je tenais à le dire parce que c'est juste. Hein. Alors, cependant, c'est là, il est manifeste que la musique qu'évoquait Bloch en 1918 n'était pas la musique enregistrée telle qu'on la perçoit quotidiennement. Oui, qu'on l'a bien connu. Aujourd'hui, mais celle jouée directement par un instrument ou un orchestre devant un public, fût-il restreint ou à un petit groupe. Dans ce contexte, la musique s'inscrit dans un moment privilégié de l'existence à quelque chose d'indissociable d'une cérémonie profane, depuis le récital de piano intime jusqu'au spectacle total de l'opéra, où l'excès des images utopiques se double d'un débordement de vitalité et de subjectivité lié à l'impact de la présence humaine. Donc, ce que tu veux expliquer, c'est qu'on aurait perdu le corps par rapport à la musique. Et je vais te dire encore quelque chose, et puis après, t'iras. Mm-hmm. Alors, je ne dis pas qui a écrit ça, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, Le lyrisme de la mécanique a quelque chose d'attrayant et d'inquiétant. L'homme du Moyen-Âge pensait avant la machine. L'homme de 1954 pense après la machine. Beethoven, ça n'est plus le miracle du concert longtemps prémédité et qui donnait au fauteuil d'orchestre l'allure de et la grâce d'un jardin enchanté. Beethoven est devenu le parent pauvre du 33 ou du 78 tours minute, l'accessoire des clairs de lune en chambre, le romantisme en pilule pour repas pris à la sauvette. Voilà.
Ah ben je suis tout à fait d'accord.
D'accord. Avec... Tu sais ce que c'est, encore, Léo Ferré.
Léo Ferré, oui.
Léo Ferré, qui tenait une émission de l'année 50 sur Paris Inter, et qui parle de la musique magnifiquement. Et qui appelle ça la musique en conserve. Et vas-y, c'est à toi. C'est... Vas-y.
Oui, là, j'évoque... en fait, je ne connaissais pas ce texte, mais ça rejoint exactement ce que je pense. C'est qu'effectivement, lorsque... Alors, on a parlé de la musique parce que j'en parle dans un chapitre... sur l'utopie et la musique, puisque c'est très important pour la pensée d'Ernst Bloch. L'un des auteurs sur lesquels je m'appuie, et c'est le grand théoricien de l'utopie, peut-être que une partie des auditeurs sont déjà au courant, mais je tiens quand même à le rappeler, parce qu'on l'oublie un peu, Ernst Bloch. On parle beaucoup de Benjamin, on parle beaucoup d'Adorno, ce qui est très bien, très intéressant. Ce sont des auteurs...
Pour une raison simple, peut-être que Benjamin est du côté de la poésie et Bloch et Adorno du côté de la philosophie uniquement.
Oui, peut-être. Ouais. Alors Adorno est du côté de la musique, justement.
Oui,
il était compositeur de musique lui-même.
Oui. Mais je parle de leur langage.
Leur langage. Alors le langage, évidemment, de Benjamin est beaucoup plus accessible que le langage très abstrait de Bloch ou d'Adorno. Mais ce sont des grands théoriciens. Je ne vais pas m'attarder sur leur carrière, mais à propos de Bloch, lorsqu'il fait paraître l'esprit de l'utopie en 1918, dans l'esprit de l'utopie, son modèle d'utopie, c'est d'abord, lui est donné par la musique, par justement ce rapport à la musique qu'il conçoit comme une sorte d'utopie incarnée.
Nous sommes bien tombés sur Radio Liberté.
Oui, voilà. Et alors c'est assez donc je tenais à en parler dans mon livre de voir d'analyser un peu les rapports entre utopie et musique. C'est une tradition donc très allemande, hein, cette tradition cette focalisation sur la musique que nous connaissons moins en France. Ici c'est plutôt l'image je vais pas trahir un secret en disant qu'on vient un peu du même de la même matrice surréaliste.
Il fallait pas le dire, s'il te plaît. vas-y.
Et donc c'était l'image, le rapprochement l'autréamontien des deux réalités les plus distantes possibles qui fait donc surgir une révélation. Hein, donc notre utopie, on peut lui trouver une racine dans les images puissantes.
Tu n'as pas l'impression, puisque tu parlais du surréaliste, tu as vendu la mèche à tout le monde, là, que Rimbaud, Lautréamont, ont été les chouchous, entre guillemets, du mouvement surréaliste. Et plus on se déplace, plus quelqu'un comme Baudelaire a une importance politique.
Oui, tout à fait.
C'est pas l'impression que ça te fait ?
Oui, moi j'ai toujours tenu Baudelaire pour extrêmement important. Il est possible que ce soit ça aujourd'hui chez beaucoup de gens, mais en tout cas, bon, pour ma part, j'ai toujours été absolument fasciné par Baudelaire. Et d'ailleurs, si on parle de musique, Baudelaire était sensible, bien sûr, à la musique. Hein, c'est quand même l'introducteur en France
de Wagner.
Il a écrit un excellent texte sur Tannhäuser et Wagner. Hein, le Wagner qui était encore révolutionnaire à l'époque, qui n'était pas le Wagner de la fin de sa vie, ce Wagner antisémite et sénile que Nietzsche...
Le cas Wagner, magnifique.
Wagner, oui, que Nietzsche a stigmatisé avec raison, mais qui était qui a participé avec Bakounine à l'insurrection de Dresde. Il faut pas l'oublier. Bon, Wagner était moins courageux sur les barricades que Bakounine et s'est enfui alors que Bakounine est resté. Mais disons que il a écrit, c'est Wagner qui avait écrit cet opuscule, L'art et la révolution, qui était un texte tout à fait révolutionnaire, donc dans les années, donc à l'époque de la révolution de 48. Bon, passons sur Wagner, mais c'est vrai que Baudelaire nous importe énormément.
Et les pays qui n'ont pas de légende seront condamnés à mourir de froid. C'est une phrase magnifique.
Oui, oui, oui.
Quand on prend ton livre et qu'on s'aperçoit que nous sommes dans le froid, nous sommes parvenus dans le froid.
Oui.
Et moi, ce qui m'a intéressé, depuis tout à l'heure, je tourne autour, je m'excuse, c'est comme ça.
Bon, oui,
c'est notre part de responsabilité.
Oui.
C'est-à-dire, on peut pas dire qu'on a perdu l'utopie. On nous a enlevé l'utopie. Nous avons perdu l'utopie.
Oui, peut-être. En tout cas, je ne suis pas sûr que si nous avions totalement perdu l'utopie ou si si on l'avait négligée, on serait à cette table aujourd'hui. Je pense que nous, on a résisté. Je crois que je suis pas prêt du tout à reconnaître une quelconque responsabilité.
Nous allons diverger sur le sujet, cher Jean-Luc Guéroux.
Je pense qu'on a résisté. On a résisté comme on a pu, dans l'ombre, souvent, bien forcé, mais on est un certain nombre à avoir maintenu la flamme et à essayer de la transmettre. J'ai écrit ce livre dans ce but, d'ailleurs, je peux le dire en quelques phrases. J'ai pensé justement à ces nouvelles générations où il y a aujourd'hui beaucoup de rebelles. Et je suis très heureux de voir qu'il y a comme une résurgence de la révolte chez beaucoup de jeunes, ce qui, dans les années 1980-90, était un petit peu passé de mode.
Hein. Oui, mais c'était pas passé de mode en 45-46, pas passé de mode en 1848. T'as toujours eu des minorités qui, après les événements, apparaissent.
Bien sûr. Mais ces minorités sont là, mais elles ont un terreau favorable. Il y a eu une période, bon, on se souvient tous des années Bernard Tapie, hein, ces années 80, ces années qui étaient vraiment épouvantables, les années de 80-90, où s'est formée cette couche dite des bobos, hein, et où là, une partie de la jeunesse a été capturée par le miroir aux alouettes de la réussite sociale, et toute une génération qui a tourné le dos à la révolte.
Il se peut qu'on se voit jeudi.
Oui.
À Publico, c'est ça?
Oui.
À quelle heure c'est?
Je crois que c'est à 19h30.
19h30, tu présentes ton livre, et
oui,
je te présenterai avec ton livre,
oui,
à Publico. C'est 19h30.
19h30.
Et mardi, il y a une grande manifestation.
Oui.
Il faudrait qu'il y ait un maximum de gens dans la rue.
Oui, oui.
Tu sais que, qu'il y a des grèves, tu sais qu'il y a des mouvements sociaux, tu as des gilets jaunes, on en a parlé.
Oui.
Avant de vraiment descendre dans ton livre, sous différents aspects, on n'est pas une provocation presse sur Radio Libertaire,
oui,
surtout sur Onde de Choc.
Oui.
Hein, je vais te lire un petit texte.
Oui.
Tu me diras ce que tu en penseras. Et
d'accord.
Puis on discutera.
Oui, hein, bien sûr.
C'est par rapport à l'actualité.
Oui.
Alors, revenons sur ce qui ramena à la politique les dépolitisés de 34-36 et de 42-43. Les circonstances qui rendent les dangers concrets, qui pour tout le monde donnent un sens au combat. Un peu de patience, de mémoire d'homme, il n'est jamais arrivé qu'elles ne se produisent pas. Et ce n'est pas nécessairement drôle. La possibilité de gagner, elle dépendra de nous quand l'heure sera venue. Mais ce que nous pourrions essayer de définir tout de suite, Joël, ce sont des buts de guerre. Dans quel monde avons-nous envie de vivre? Comment? Quel visage entendons-nous donner à notre bonheur? Quelle société voulons-nous faire? C'est-à-dire quelle politique? Pour ne pas mourir sans qu'il ne se soit jamais rien passé. Et on arrive là. Qu'est-ce que vous faites, les philosophes, les professeurs, les écrivains, moi-même, les intellectuels, comme on dit, les praticiens ne manquent pas. Ce monde en est plein. Mais les penseurs politiques, en attendant que revienne le temps de l'action, des actions politiques, une bonne, belle, grande utopie, comme nous pensions en 1945 que l'homme nouveau serait créé, dans les 10 années qui allaient suivre, ce ne serait peut-être déjà pas si mal. Qu'est-ce que tu en penses ?
Ah, c'est un texte intéressant, c'est un beau texte.
Mouille-toi.
Non, je pense que les choses très intéressantes sont, enfin, très fines sont dites ici. Mais effectivement, quel est le rôle de l'écrivain, du théoricien ? Je parle de, j'évoque un petit peu ça dans mon livre aussi, en disant que les théories sont des armes. Sont des armes dans la lutte. Elles sont destinées à être reprises. Et à être reprise par les lecteurs qui en font ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, qui parfois justement les dépassent par la pratique. Et et le théoricien lui-même, eh bien lui aussi, il va dans la mesure de ses forces au charbon après. Et surtout si quelque chose se passe qui va dans son sens, eh bien pourquoi ne pas intervenir cette fois-ci autrement que par la plume, mais aussi par la présence, la parole.
Alors, etc. Pour aggraver mon cas,
oui.
C'était un texte de Roger Vaillant.
Ah oui.
Le dernier,
oui,
j'aggrave mon cas.
Oui.
Auprès de nombreux de tes camarades, j'en suis sûr. Texte de Roger Vaillant, du stalinisme.
Oui.
C'est quasiment le dernier qu'il a écrit, c'est Éloge de la politique.
Oui.
C'est extrêmement d'actualité.
Mmh. Ah, mais Roger Vaillant, bien sûr, c'est un personnage extrêmement controversé et qui a eu des positions absolument détestable, pro-stalinienne après la guerre.
Jusqu'au bout.
Oui.
Jusqu'au bout.
Mais, enfin, jusqu'au bout, je suis pas...
Jusqu'en 56, sans aucun problème. Il a arrêté en 56.
Il a arrêté en 56, ouais. Mais pas jusqu'à sa mort.
Ah non.
Il a, en 56, il a enfin peut-être compris...
Il a été jusqu'au bout du stalinisme, c'est ça que je veux dire.
Oui, il
mais fascinant, personnage fascinant.
Oui, c'est un personnage...
Mais là, il y a un terme, il parle de l'homme nouveau, terme très dangereux. Et j'ai fait lire ton livre à une jeune fille, elle a feuilleté. Elle n'a pas eu le temps, bien sous tout rapport, et qui a trouvé une absence que moi, je n'avais pas trouvée. C'est Frankenstein. Oh. C'est-à-dire la création de Frankenstein, et c'est une la création de l'homme nouveau, est-ce que c'est une utopie ? Réponds à ma jeune fille, bien sous tout rapport.
Oui, alors, à propos de Frankenstein, j'évoque pas Frankenstein, bien sûr, je ne pouvais pas parler de tout, mais Frankenstein était effectivement une sorte de création peut-être utopique ou dystopique, on ne sait, plutôt de l'ordre de la dystopie d'ailleurs, mais j'évoque quelque chose d'autre, j'évoque le transhumanisme, qui est cette dystopie qui se pointe à l'horizon. Et ce que je trouve de tout à fait dystopique dans le transhumanisme, ce que j'écris là, c'est pas cette idée de vaincre la mort individuelle, etc. Pourquoi pas, d'ailleurs, de vaincre la mort individuelle, c'est pas le problème. Mais c'est de créer un homme augmenté, un homme parfait, un homme meilleur. Et ça, pour moi, le transhumanisme, c'est un avatar du stalinisme qui voulait créer un homme nouveau, mais un homme communiste nouveau. Et là, le transhumanisme, c'est la même chose. Et moi, je revendique, je veux bien qu'on soit immortel, mais avec toutes nos tares, toutes nos imperfections, et pas qu'on nous donne des appendices supérieurs pour être plus productif, parce que c'est ça le transhumanisme.
Tu peux pas dire que Mary Shelley ait écrit un texte stalinien, c'est très pur, Mary Shelley.
Non. Je parlais de pour évoquer, puisqu'elle avait dit tiens, il y a ta jeune.
Très bien, je m'étais très bien. Ne critique pas ma jeune fille.
Non, je ne la critique pas. Mais j'aime beaucoup Mary Shelley en plus, qui est donc liée donc à Shelley, la femme de Shelley, la fille.
C'est quand même une langue tirée à Dieu.
Oui.
Là-dedans, c'est une provocation envers Dieu.
Bien sûr. Bien sûr, voilà. Et c'est la fille de Mary Wollstonecraft.
Oui, bien sûr.
Donc, quand même.
Bonne lignée. Une
très bonne lignée.
Ce qu'on va faire, on va écouter, si Monique veut bien, toujours pareil, il faut faire attention à tout ça. On va écouter un brin de musique et on va commencer à descendre dans l'histoire de l'utopie, si
d'accord,
tu veux bien, le sens de l'utopie.
Oui.
Et puis, bon, voilà, on va voir, on va évoluer sur Radio Liberté 89.4 au 01 43 71 89 40. Merci Monique.
He's one the very devil fears to battle. He is a butcher, all the rest are cattle. Though he's a pimping
hound, no jail keeps him in. But who will make him bite the dust? It's women. It's useless to resist. No one is free. There's no escape from sexual slavery. He doesn't heed the Bible, sneers at all the laws. As far as he's concerned, he has no flaws. And well aware how women tempt a man, he fends them off as best he can. By light of day, his manners are so lofty. Yet at night, a woman makes him just a softie. This man discriminates the human race. While he is locked tight in a slut's embrace, his bloody deeds would paint the whole world scarlet. Who'll dig his grave with her bare hands, a harlot? It's useless to resist, no one is free. There's no escape from sexual slavery. This man believes the and obeys the laws of open shop, Jim Crow and Santa Claus. Refuses oysters when he eats at noon, but later on he'll change his tune. When evening comes, he says, I feel so alright. I'll need someone to calm me down by moonlight. There's no getting away from it. All men are pigs.
Ah, quelle voix. Cathy Barbarian, bah, une musique de Kurt Weill et un texte de Bertolt Brecht.
Oui.
Copain de Walter Benjamin,
hein? Oui, bien sûr. Oui.
Tiens, j'ai posé rapidement une question, enfin en ton livre, mais rapidement oui. en deux. Oui. Tout à l'heure, tu parles d'Anna Arendt.
Oui.
Tu arrives à pardonner à cette dame là, ce qu'elle a éprouvé pour Heidegger jusqu'au bout en deux mots.
Alors, je pense que c'est purement affectif et qu'elle essaye tout le temps de sauver quelque chose, mais... Elle a quand même très bien, dans ses vies politiques, il y a un texte sur Heidegger qui est assez intéressant, où elle explique pour elle, elle essaye que c'est le renard qui se prend au piège lui-même, et c'est une façon effectivement de le dédouaner. Mais je pense que tout ça est c'est difficile de condamner des gens
qui se sont aimés. Bien sûr.
C'est pour moi ce qui est absolument intouchable. Autrement. Je rappelle tout de même que pour Heidegger que je critique vertement dans mon livre d'ailleurs sur certains points qu'il a eu pendant longtemps il a bénéficié d'une ambiguïté fondamentale. Il a eu au début des disciples particulièrement prestigieux pour nous, comme Marcuse, qui a fait sa thèse.
Il a dit sa mort, René Crevel, que tu connais aussi, que tu as dû fréquenter, René Crevel, dans la revue Commune, c'est une revue du Parti communiste, dénonce clairement, sans ambiguïté, Heidegger.
Oui,
il a fallu que les intellectuels français,
mais les intellectuels français sont impardonnables.
Impardonnables.
Non, je ne parle pas des intellectuels. Là, je parlais des gens qui avaient été capturés par la pensée d'Heidegger, comme Anna Arendt, comme Karl Levitt au début, qui s'en est détaché, hein, bien sûr, très vite, mais ils s'en sont détachés dans les années 30, comme Lévinas qui a regretté après d'avoir été heideggerien, mais il l'a été au début des années 30. D'accord. Et ce n'était pas...
D'accord, oui, mais le paradoxe, c'est que Crevel a vu clair.
Oui, mais Crevel a vu clair à ce moment-là, mais eux aussi. Lévinas a vu clair, en fait, à peu près dans la même année que Crevel.
En 35. Oui. Donc Anna Arendt aurait eu le temps de se retourner.
Anna Arendt aurait pu
Fameuse phrase que tu viens de dire, historique, les gens qui se sont aimés, c'est très difficile de rentrer
dedans. Oui, très difficile.
Bon,
oui.
Il y a L'homme sans horizon, Libertaliatre, Matériaux sur l'utopie. Il y a un historique de l'utopie ?
Oh oui, il y a un historique de l'utopie. Enfin, dans mon livre, je ne fais pas un livre d'histoire. Hein. Donc, ce n'est pas un livre d'histoire, mais l'utopie, là, je vais être assez bloquien. Je vois dans l'utopie une sorte de poussée, d'élan presque ontologique à quelque chose qui est là toujours dans le monde.
D'accord. Il n'y a pas un risque, c'est-à-dire le risque d'une atonie, d'une nostalgie de l'âge d'or?
Alors, je pense que le rapport à l'âge d'or doit être vraiment pensé comme effectivement une nostalgie, mais une nostalgie d'ordre, enfin la nostalgie d'un paradis perdu, mais d'un paradis qui a été fantasmé, bien sûr, puisque l'âge d'or n'a pas existé. Mais c'était, c'est simplement, je pense, chez les opprimés. Puisque cette nostalgie de l'âge d'or, on la retrouve un peu partout, pas seulement en Occident, hein, mais aussi dans d'autres civilisations. Hein, mais c'est les opprimés qui, passant du statut de chasseur-cueilleur et de cette société d'abondance qu'a décrite Marshall Salins dans Âge de pierre, âge d'abondance, qui est quand on est passé aux premières sociétés à État, eh bien, il est, pour moi, je suis persuadé que ce mythe de l'âge d'or provient de cette nostalgie de la liberté et de l'abondance perdue, et de ce rapport immédiat à la nature.
Monsieur Joël Guiron, à un moment donné, vous allez me confirmer ou infirmer si j'ai bien lu, hein, vous ne considérez pas, cher monsieur, cher ami, vous ne considérez pas la décolonisation comme une utopie?
Alors, je considère...
Qu'est-ce que t'en penses, là?
Oui, c'est des utopies, pour moi, c'est une sorte d'utopie partielle. C'est-à-dire que la décolonisation, il fallait qu'elle ait lieu très très vite, d'ailleurs. Les empires coloniaux n'ont pas duré très longtemps. Hein, les grands empires, ça dépend des empires. L'empire ottoman, qui était un empire colonial, hein, a duré assez longtemps. Mais les empires coloniaux occidentaux, heureusement, n'ont pas duré très longtemps. Encore que l'empire espagnol et portugais ait duré quand même plusieurs siècles. Hein. Mais ce sont n'envisage pas cela comme une utopie sociale. C'est des utopies nationales. Ce sont des utopies. Il s'agit retrouver l'indépendance. Et ça, c'est évident qu'il y a un aspect utopique. Mais aussitôt se recrée une société de classe dans ces zones décolonisées. Il n'y a que dans certains endroits où la résistance des peuples à la colonisation, je pense au Quilombo du Brésil, par exemple, n'a pas pris cette...
Ça dure combien de temps,
le
Quilombo du Brésil?
Ça dure un siècle, à peu près. Et puis, c'est finalement écrasé. Mmh. Hein, et pas écrasé par l'État colonial, mais par l'État central, hein, de toute façon. Donc, on n'est pas non plus dans le paradigme de la décolonisation, finalement. Hein, la colonisation l'emporte, là.
Alors, ça voudrait dire que le projet peut être utopique, mais la finalité ne sera jamais utopique.
Jamais non, mais en tout cas, elle peut ne pas... La finalité peut ne pas l'être. C'est-à-dire qu'il y a des utopies d'émancipation générale. L'utopie humaniste, ce que j'appelle aussi l'utopie libérale, le projet chez les humanistes du XVIe siècle, chez les encyclopédistes du XVIIIe siècle, cette utopie était visait la réalisation du bonheur de l'humanité. Le problème, c'est que ce n'était qu'une utopie politique et pas une utopie sociale. Et lorsque cette utopie se réalise, elle se réalise en tant qu'utopie politique. C'est les droits de l'homme, c'est la République, et mais là, au niveau social, évidemment, alors, cette utopie est capturée par la bourgeoisie.
On va rentrer dans la Révolution française.
Voilà.
On y va ?
Oui,
la Révolution française.
On y va, la Révolution française.
Moi, je te trouve... je vais encore faire l'avocat du diable un peu, si on
oui.
Dit, on lit pas rien. Pour à plusieurs reprises dans ton livre, je te trouve d'une sévérité un peu amnésique. Je veux dire que tu critiques certaines personnes
oui.
Sans te poser le problème du cheminement qu'ils ont eu au préalable. Je veux dire que pour atteindre un anarchiste Klutz, athée, il faut un drôle de boulot avant.
Ah oui, mais je ne critique pas Anacardis.
Non, non, ben au contraire. Mais il y a un boulot avant. C'est-à-dire que des gens ont travaillé. Quand tu parles des Lumières,
bien sûr.
Tout le monde. Les Lumières, c'est aussi bien Turgot, etc. Il faut faire attention aux mots Lumières.
Oui, c'est une attraction.
Mais chez un Diderot, par exemple, oui. T'as un travail de matérialisme qui est fait. Tu ne peux pas les condamner.
Sûr. Ah, mais je ne les condamne pas.
D'accord, c'est moi qui ai...
Ah non, je ne condamne absolument pas une partie des Lumières, tout au moins, notamment Diderot, d'Holbach, et la maîtrise ou Sade, parce que Sade aussi, c'est le versant noir, le versant obscur des Lumières, mais c'est un philosophe des Lumières.
Oui, mais je te rappelle que quand il rejoint la section des Pics, Sade, parce qu'il a besoin, parce que ça va très mal, il les rejoint, il ne supporte pas l'odeur des sans-culottes ou des bras nus. Hein.
Oui, bien
non,
sûr.
Mais là, il y a une grande... On arrive à cette contradiction qui est celle de l'idée et du corps, encore une fois.
Oui, c'est vrai. Il reste un aristocrate, de toute façon.
Il reste un aristocrate.
Bien sûr. Mais il propose un projet de gouvernement, l'idée sur le mode de la sanction des lois, qui est extrêmement intéressant, puisque c'est en fait un projet de démocratie directe quasiment totale. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'abolition de l'État, mais on n'en est pas loin. Et c'est un peu comme Anacharsis Klotz, ce sont des...
Tu le dis mieux que moi, j'ai toujours du mal à le dire, son nom. Vas-y.
Anacharsis Klotz, l'orateur du genre humain, qui a écrit de nombreux pamphlets et qui a fait de nombreuses interventions à l'Assemblée nationale où il était élu à la Convention, puisque c'était l'un des quelques députés étrangers élus à la Convention.
Il y a des Anglais, il y a des Allemands,
oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Mais on arrive là à cette contradiction, qui n'est pas une contradiction, on va y aller, c'est qu'effectivement que Robespierre... condamne l'athéisme en disant que c'est un phénomène de riches. Enfin, on sait ça.
Oui,
c'est ça, de privilégiés et de riches.
Oui, mais le problème de Robespierre, effectivement, c'est que lui représentait une catégorie qui était la petite bourgeoisie. Et Robespierre était pétri de rousseauisme. Alors, j'aime beaucoup Rousseau.
Il y a deux Rousseaux, parce que les confessions, c'est pas...
Les confessions, les rêveries, c'est tout à fait... les rêveries, sont un texte magnifique, mais... Le programme de Rousseau, c'est quand même un programme d'une démocratie de petits propriétaires.
Ce que je veux te dire, Joël, c'est que ces gens-là,
alors
j'essaye, Robespierre, Saint-Just et quelques-uns, ils vivent une situation qui est unique. Il n'y a pas de préalable. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans ?
Oui, et chacun fait avec ses présupposés idéologiques. Et voilà. C'est sûr que... Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui vont plus loin, quand même. Alors, Robespierre était largement débordé sur sa gauche par les exagérés. Les enragés, Jacques Roux. Les femmes révolutionnaires, comme Claire Lacombe. Et Robespierre a usé contre eux de toutes les techniques de la calomnie et de la manipulation qui sont reprises sans vergogne par les staliniens, même avant les bolcheviques, contre ceux qui seront plus radicaux qu'eux. Et il fait la même chose avec Hébert et Chaumette, qui faisaient partie donc des exagérés et de la Commune de Paris. Et le résultat aboutit au 9 Thermidor, c'est-à-dire à cette chose terrible que Robespierre est détesté de tout le monde, y compris de la classe ouvrière, puisque comme on l'a remarqué il y a longtemps, et notamment Michelet, mais d'autres auteurs.
Daniel Guérin aussi.
Daniel Guérin dans les luttes de classe sous la Première République, un livre qu'il faudrait absolument rééditer. C'est une somme capitale. Eh bien, comme on l'a remarqué, eh bien, le peuple de Paris ne bouge pas pour sauver Robespierre et les conventionnels qui vont être décapités.
Mais dans un mouvement historique, tu sais très bien que les êtres sont contradictoires. Tu prends être comme Marat, qui a le mieux écrit contre l'esclavage, c'est Marat.
Ah ben bien sûr, c'est remarquable.
Remarquable.
Et Saint-Just, alors si j'attaque Robespierre, et j'attaque Robespierre en reprenant, enfin je critique Robespierre en reprenant certaines critiques de l'époque, notamment celle de Blanqui, qui est vraiment extrêmement
On va finir par trois
virulent.
Personnages, Fourier, Blanqui et Luca, si on se montre un peu moins prolixe, d'accord, on va écouter un peu de musique et puis on essaye de voir.
D'accord, mais je veux bien, mais j'aurais peut-être voulu terminer un tout petit peu. Bon, sur Blanqui, qui critique radicalement Robespierre et le robespierrisme, et je tenais à le faire parce que je trouve que malheureusement, aujourd'hui, il y a une certaine tendance néo-stalinienne qu'on peut discerner dans certaines publications qui vise à donner trop d'importance à la figure de Robespierre aux dépens des figures plus radicales qui existaient à cette époque. Et je trouve qu'il faut de nouveau... Robespierre a été une arme dans les mains des staliniens, et notamment d'Albert Mathiez, l'historien, et une arme justement pour un petit peu figer l'esprit révolutionnaire autour de cette figure-là, au détriment des figures plus radicales.
On va écouter de la musique, mais Joël Guéraud, Blanqui récupéra par les trotskistes sans aucun problème.
Oui, je le sais.
Quel est donc dedans la plaine ce grand bruit qui vient jusqu'à nous? On dirait un bruit de chaîne que l'on traîne sur des cailloux. C'est le grand lustucru qui passe, c'est le grand lustucru qui mangera. Donc sur la rivière, ce grand bruit qui vient jusqu'ici, on dirait un bruit de pierre que l'on jette dedans un puits. C'est le grand lustucru qui passe, c'est le grand lustucru qui mangera. Un pigeon tombe du clocher. Quel est donc ce bruit de branche que l'on traîne sur le plancher? C'est le grand lustucru qui passe, et c'est moi qu'il vient chercher.
Bon, sur Radio Liberté 89.4, encore Monique, main d'acier. Voilà, les doigts magnétiques qui agissent au 01 43 71 89 40. C'était toujours une musique de Kurt Weill. On allait hors antenne, on s'est dit quand même, Blanqui, c'est un problème, problématique. Hein
oui.
Hein, on raconte l'histoire, je l'ai raconté 150 fois à ce micro-là, c'est l'enfermé.
Oui.
Le barricadier, il fait un nombre d'années de cabane énorme.
Énorme, oui.
Il n'arrive pas à la commune parce qu'il est enfermé bien avant
au
fort du Taureau, oui, là-haut. Là-bas, près de Morlaix, en baie de Morlaix.
Oui.
Et là, il va lever les yeux au ciel.
Oui.
Il va voir les étoiles passer.
Oui.
Et puis, il va dire, merde, il y a quelque chose qui se passe qui est plus fort que nous, qui revient toujours. Mm-hmm. C'est la grande contradiction.
Oui.
Ces matériaux pour lutter sur le... Non ?
Oui, oui. Alors, oui, tu évoques l'éternité par les astres.
Bien sûr, magnifique.
Oui. Ce livre extraordinaire de Blanqui qui prévoit, donc qui renouvelle le mythe de l'éternel retour.
Bien sûr. Avant Nietzsche, d'ailleurs.
Avant Nietzsche, mais à peu près au même... à la même période, hein, et Nietzsche évidemment n'a pas lu Blanqui
très peu l'ont relu, hein, il faut attendre Benjamin, même oui. Les surréalistes passent à côté, hein.
Ah, ils passent à côté, oui, bien parce sûr, hein. Que c'est très... Bah, les surréalistes, oui, bah, donc pour revenir à Blanqui, oui, Benjamin, lui, il l'a lu. Benjamin est très intéressé par ce livre, et il y voit d'ailleurs une condamnation, l'expression d'une condamnation terrible de la société bourgeoise, hein, qui et Blanqui dans l'éternité par les astres envisage donc que ce que nous vivons sur cette terre, eh bien dans d'autres parties de l'espace, eh bien on le revit sans cesse, éternellement.
Le globe sosie, les mondes sosies,
voilà, des mondes parallèles, des mondes sosies qui le revivent, mais que peut-être eh bien, les choses ne se passeront pas tout à fait de la même manière. Peut-être la justice va se manifester dans ces mondes sosies. Peut-être que les injustices sociales seront corrigées. Alors, c'est une...
Joël Giraud, toi qui es un surréaliste pur et dur, sans pitié pour les siècles passés, les gens comme ça, rapidement, André Breton, ça te parle, je suppose.
Oui.
Magnifique,
bien sûr,
hein,
oui,
Breton,
bien
là.
Sûr.
Il ne pense pas à l'anarchie, Breton. Il passe à côté d'une utopie. Il a besoin d'une machine politique. Il y pense que très tard, l'anarchie. Hein.
Non, dans sa jeunesse, il est sympathisant anarchiste et il en parle d'ailleurs dans Arcane 17. Il évoque
les
drapeaux noirs qui trouent la forêt des drapeaux rouges et qui étaient justement ce qui l'a marqué le plus. Dans sa jeunesse, il était anarchiste. Il était même très, très influencé par l'anarchisme individualiste de Barrès, du premier Barrès. Mmh. Hein, évidemment, il a organisé lui-même le procès Barrès contre le Barrès nationaliste, oui. Mais le premier Barrès, le Barrès du culte du moi,
romantique.
Le Barrès romantique et aussi donc, ce Barrès anarchiste, anarchisant, individualiste. Et il ne faut pas oublier que Breton est quand même pétri de symbolisme, de toute l'école symboliste. Il a évidemment tout lu, l'un de ses poètes préférés est Saint-Paul Roux. Et tout ce mouvement symboliste était un mouvement libertaire, ouvertement anarchiste. Lorsque l'un des peintres préférés de Breton était Seurat. Et Seurat était anarchiste. Mmh. Il y a actuellement à Paris une très belle exposition autour de Félix Fénéon, qui était donc un écrivain anarchiste. Eh bien, à l'Orangerie, eh bien, vous voyez autour de Félix Fénéon des œuvres de Seurat, des œuvres de Signac, Paul Signac, anarchiste, mmh. des œuvres de Maximilien Luce et d'autres peintres et artistes de l'époque. Ils étaient tous anars. Et Breton est fils direct de cette filiation-là. Donc l'anarchisme, il a baigné dans l'anarchisme. Mais pour répondre quand même à ta question, je vais aller assez vite, mais je crois que comme beaucoup de gens, il y a eu le choc de la révolution russe.
On dirait Maître Vergès qui est en train de débattre. N'empêche... Ce que je réitère, il y a le choc, on le sait,
oui.
Il a besoin de rentrer au Parti communiste, ça, voilà.
Oui.
Mais le mouvement libertaire, il va le trouver dans les années 50.
Ah oui, il va le trouver en tant que mouvement dans les années 50.
Les années 50.
Et il y aura eu comme médiation la découverte de Fourier. Quand Breton découvre Fourier, aux États-Unis, à New York, parce qu'il connaissait bien sûr Fourier, mais il ne l'avait pas lu. Mmh. Il découvre Fourier dans une librairie.
Magnifique.
Je crois que c'est à Gotham Bookmart, et librairie qui n'existe plus, malheureusement, qui a fermé dans les années 2005, par là. Et il va donc, il découvre Fourier, et là, il va y avoir une révélation pour lui.
L'Ode à Charles Fourier, 1947.
1947, ouais, qu'il magnifique. Écrit avant, qu'il écrit chez les Indiens Hopi.
C'est ça.
Il écrit en 1945, quand il visite les réserves indiennes avec Elisa, qu'il a rencontré en 1943. La rencontre avec Fourier est presque contemporaine, et contemporaine de la rencontre avec Elisa, à quelques semaines près. Mais donc, c'est vraiment pour Breton une révélation.
Mais on est toujours dans la même contradiction, c'est-à-dire du système, de l'organisation et de l'harmonie.
Oui.
C'est-à-dire que l'harmonie ne se met pas en organisation ni en système.
Non.
Bah, bien sûr.
Non.
Perret est trotskiste.
Oui.
Bien sûr.
Alors, Perret est trotskiste, mais un trotskisme dissident, tout de même, puisqu'il... d'abord, pendant la guerre d'Espagne, il va quand même combattre dans la colonne du Ruti, il est pas. Et puis il est au POI, Parti ouvrier internationaliste. Et puis après, il se range sur les positions de Muniz. C'est-à-dire, c'est un trotskisme dissident, proche de la femme, de la veuve de Trotsky, Natalia Sedova, qui n'est pas sur les positions de la 4e internationale.
On va revenir à voilà. Un Blanqui est récupérable. Je veux dire que c'est l'interprétation de l'histoire. Il est récupérable par ces mouvements-là.
Mais
oui, mais il est récupérable par ces mouvements-là.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Mais il n'y a rien qui... Dans une œuvre, il n'y a rien qui ne l'empêche. Il n'y a pas d'immunité de l'œuvre. Elle ne peut pas... l'œuvre la plus radicale, fut-elle, peut être récupérée par ses ennemis réels. On l'a vu avec Nietzsche, récupéré par les nazis, alors qu'il n'a pas cessé de protester contre l'antisémitisme.
Breton est récupéré par la bourgeoisie libérale.
Et Breton peut être, bien sûr, et Debord, Guy Debord aussi, et proclamé trésor national. Mais tout peut être récupéré, toujours. Toujours. On récupère les cadavres.
Oui. Charles Fourier.
Oui.
Ce que les gens ne savent pas sur Charles Fourier, tu vois, on va toucher deux mots là, c'est que ça vient très tôt dans l'histoire.
Oui.
Son texte, 1808, des quatre mouvements.
Sous Napoléon. Oui, oui. Ça vient très tôt, très très tôt.
Et Marx en a connaissance ?
Marx en a connaissance, puisque Marx fait l'éloge de Charles Fourier. Auprès d'Engels, il fait l'éloge de Charles Fourier en disant justement que Fourier est le seul penseur qui ait compris très tôt la pauvreté naît de l'abondance même dans le régime capitaliste. Et ça, Marx est extrêmement redevable à Fourier d'avoir compris que l'abondance de marchandises engendrait la pauvreté, engendrait l'appauvrissement, et donc Fourier propose son système utopique. Marx aimait beaucoup Fourier aussi, je pense que c'était pour lui le socialiste utopique le plus intéressant de tous, alors qu'il n'appréciait pas forcément des gens comme Cabet, qui se réclamait du communisme, mais c'était un communiste de caserne.
Je vais citer une phrase que tu as écrite quand même, tu vas prendre tes responsabilités, parce qu'elle me paraît juste. Il y a bien une phrase juste dans ton livre.
J'espère quand même.
La sortie du capitalisme sera métapolitique ou ne sera pas.
Oui.
C'est une phrase qu'aurait pu écrire Fourier.
Oui, oui. Je pense.
Oui, oui, c'est une phrase qui est fourieriste,
oui,
non
oui, 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 tout à fait.
D'accord.
Oui, oui. Il aurait pu l'écrire, dans d'autres termes sans doute, mais il aurait pu l'écrire. Alors,
tu as une sympathie pour les gens comme le père Enfantin?
Oui, aussi. J'ai une sympathie pour le père Enfantin, même si... J'ai une sympathie, même si c'est un utopiste. Même s'il y a des choses un petit peu infantiles chez le père Enfantin, comme par exemple le fait de boutonner ses vêtements à l'envers, des choses comme ça, pour être servi pour ne pas... justement, pour imposer le rapport à la collectivité.
Ça te paraît futile, toi ? Ça te paraît mineur, une telle réaction ? Moi, ça me paraît majeur. C'est ça qui est très inquiétant.
Ça me paraît pas mineur, mais simplement, je trouve que le père Enfantin à essayer de réaliser une utopie. Évidemment, quand on essaye de réaliser une utopie, on se casse la figure, hein, de réaliser une utopie sans que tout le contexte soit changé. Mais c'est un personnage éminemment sympathique, le père enfantin, évidemment.
Éminemment drôle aussi, parce que le père enfantin, déjà,
c'est pas triste.
Donc, dans ton livre, là, L'homme sans horizon, matériaux sur l'utopie, Libertalia, on pourra en parler jeudi à 19h30 Publico. À Publico, voilà. 145 rue Amelot. On croise des êtres, voilà, c'est riche, philosophe, poète. Il y a un être pour qui moi j'ai une affection particulière, c'est Gerasim Louka.
Oui.
Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans?
Ah, Gerasim Louka, je le cite dans un passage sur la mort.
Tu veux je le lise rapidement avant que...
Si tu veux. Oui.
Encore plus castrante que la naissance, il parle de la mort, hein. Oui. Encore plus castrante que la naissance, qu'elle réfléchit et complète, me paraît insupportable, non seulement parce qu'elle pousse l'idée de castration jusqu'au monstrueux anéantissement physique, mais parce que cette mort unidimensionnelle ne correspond pas au saut dialectique qui nous y mène.
Oui, alors c'est un texte que Louka a écrit très jeune, qui s'appelle La mort morte, et qui a été publié donc par l'édition Corti il y a quelques années, révélé d'ailleurs, parce que c'était pas parmi les textes de Louka que nous connaissions dans les années 70. Et j'évoque dans les utopies, cette utopie qui en fait parcourt l'humanité depuis qu'elle a conscience d'elle-même, cette utopie de vaincre la mort individuelle. Évidemment, l'homme étant un animal qui est conscient de sa propre finitude, a le désir de la dépasser. Et je mets en parallèle deux philosophes, deux penseurs, Louka, qui est un poète penseur, et puis Elias Canetti, qui est un grand philosophe un petit peu oublié aujourd'hui, philosophe, écrivain, qui avait été très influencé par Karl Kraus, notamment, justement, dans ses ouvrages, notamment « Masse et puissance », développer une réflexion sur la mort et sur la nécessité de la dépasser. Voilà, alors...
Utopie majeure.
Utopie
absolue. Bon, on trouve tout ça dans « L'homme sans horizon », hein, c'est aux éditions Libertalia.
Voilà.
Venez 145 rue Amelot. Hein, je vais finir. Alors, je vais en rajouter une couche parce que j'y tiens. Je veux dire, qu'est-ce que vous faites, les philosophes, les professeurs, les écrivains, moi-même, les intellectuels, comme on dit, les praticiens ne manquent pas seulement dans les pleins, mais les penseurs politiques, en attendant que revienne le temps de l'action des actions politiques, une bonne, belle, grande utopie, comme nous pensions qu'en 45 que l'homme nouveau serait créé, dans les 10 années qui allaient suivre, ce ne serait peut-être déjà pas si mal.
Oui.
Sur Radio Libertaire. Oui, vas-y,
oui,
dernier mot.
Non, mais bon, alors le dernier mot, c'est que effectivement, le texte a des accents intéressants, mais le point de vue du personnage, qui est quand même à l'époque une canaille stalinienne, qui se dresse aussi contre ce qu'il a aimé étant jeune, c'est-à-dire contre le surréalisme, mais également qui est donc favorable, quand il parle de l'homme nouveau, on a des frissons dans le dos, parce que c'est l'homme nouveau de Staline. Hein. Son insistance sur la politique me gêne un peu, j'en parle dans L'homme sans horizon, je souligne le fait que dans politique, il y a le mot qui désigne l'État, police, qui désigne pas la police, mais l'État, la police grecque, et que révolutionnaire, pour moi, une pensée utopique, c'est une pensée d'abord sociale et métapolitique. Et je pense qu'il faut aller au-delà du politique, comme Fourier, d'ailleurs, qui ne se posait quasiment pas la question des formes de l'État, etc. Pour lui, tout de suite, il allait au-delà, et je pense que le danger d'un mouvement révolutionnaire, c'est de s'enliser dans le politique. Il faut toujours viser ailleurs, au-delà.
Mais tu sais que nous ne sommes pas une provocation presse sur Radio Libertaire. Oui. Hein. Donc on va finir comme ça avant de remercier Monique, bien sûr. Et, Vaillant, en 1946, va publier un livre qui le surélise contre la Révolution.
Oui.
Où le premier reproche qu'il fait à Breton, je ne sais pas si tu l'as lu ce livre, ce livre-là, c'est que la première interview que donne Breton, il la donne au Figaro.
Oui, oui, oui. Bien sûr, mais pourquoi il la donne au Figaro? Parce qu'il ne peut pas la donner ailleurs, parce que à l'époque, le Conseil national de la Résistance et le Comité national des écrivains bloquent toute la presse.
Joël Guéraud, cette émission s'achève.
Oui.
Nous ne sommes absolument pas d'accord. On pourra refaire une émission sur Radio Libertaire.
On remercie
quand même Monique. Hein.
Oui.
Superbe Monique sur Radio Libertaire. Merci Monique. Pardon, 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 pardon.
When your ship had come in from Burma, tout de blanc, dissonant, déguisement d'un autre temps. Je suis golfeur sur un parcours que je rumine pendant des heures. Sur le plan, trace dedans, le langage un peu saignant. 18 routes de contradictions qui sont creusées comme des jalons. Redondant, arrogant, ricanant, aberrant. Un frisson, je suis en transe. Au plaisir et décadence. Même pulsion éteinte de prise, les orteils dans la prise. Hyperbole, je dégringole et flageole de la parole. Même passion sont sans défense, je ne sais même plus si je pense. Golfer sur un parcours que je rumine pendant des heures. 18 trous de contradictions qui sont creusés comme des jalons. Un frisson, je suis en transe. Pour plaisir et décadence. Même pulsion éteinte de crise. Les orteils dans la prise. Hyperbole, je dégringole et flageole de l'âme parole. Même passion sont sans défense, je ne sais même plus si je pense. C'est pourquoi la danse froide m'emporte comme une vague.
Tous les deux dans mon appartement, alors je comprends pas pourquoi toute ta merde est comme ça. Ainsi sujet de discussion. Mes paroles qui tournent en rond. Elle me répond, je l'écoute pas, car je ne suis déjà plus là. Sur le balcon, je prends l'air, mon attitude désespère. J'aurais pourtant bien aimé beaucoup mieux me comporter. J'ai des cernes qui apparaissent, des neurones qui disparaissent. Je me pardonne à chaque verre que je me sers. Il est plus en plus tard, cette soirée est un vrai cauchemar. Je raconte que des conneries jamais dites. Clope sur clope, je tricote des concepts de comptoir. En prenant un air savant, c'est navrant. Je fais semblant de marcher droit en regardant autour de moi. Mais elle ne me croit pas, je conviens pas. La jeune femme ne me comprend plus. Elle affronte, elle m'a vu écrouler sur le parquet. Pas ma faute, c'est raté. Je ne peux plus me relever. Je suis bien allongé. Discrètement, elle s'écarte sans un mot ni remarque. Mais pourquoi elle ne m'aime pas? J'ai pourtant montré mes dents en souriant. La jeune femme ne me comprend plus. Elle a honte, elle m'a vu. Je voudrais qu'elle me rejoigne. Sur le sol, je me sens seul. Mais en partant, elle me toise un petit air de pitié. Elle n'a pas claqué la porte. C'est une femme bien élevée.
Pour à chaque fois me faire de beaux compliments. Depuis des années, j'ai tout essayé pour échapper à cette fatalité. Mais je me rends à l'évidence, impossible de combattre mes dissonances. Il est vain de vouloir m'améliorer, une perte de temps, de l'énergie gâchée. M'habille de beaux discours, même si plus le même. Sans mise à tour, une fois atteint le point de non-retour, une belle tétard nourrit mon désamour. M'habille de beaux discours, même si plus le même. Sans mise à tour, une fois atteint le point de non-retour, une belle tétard nourrit mon désamour. Regarde ma petite gueule dans le miroir, tout ce que je vois, ce n'est qu'un putain de connard. Pas besoin de faire semblant, je crois bien que la connerie coule dans mon sang. J'occupe mes comportements pour à chaque fois me faire de beaux compliments. Je m'habille de beaux discours, même si plus le même. Sans mise à tour, une fois atteint le point de non-retour, une belle tétard nourrit mon désamour. Depuis des années, j'ai tout essayé pour échapper à cette fatalité. Mais je me rends à l'évidence, impossible de combattre mes dissonances. Il est vain de vouloir m'améliorer, une perte de temps, de l'énergie gâchée.
Les pétales et les petites graines.
Brandissant les cartes, détruisant les mystères de la guerre intérieure qui m'abîme. Je ne suis pas du tout déprimé. Je prends la vie dans mes bras. D'un bon pas, je me lève d'un bon pas. Je n'ai pas envie de pleurer. J'apprécie chaque jour comme étant le premier. De plaisir à venir et de sourire à donner. J'aime les abeilles, les pétales et les petites graines. Les bégonias, la datura et les magnolias. Sous mes pieds, de petits brins de rose et salé. Le dôme, les oiseaux nagent comme des sirènes. La nature, ma vie, le futur, ma vie. 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 La nature, ma vie. La future ma vie, la nature ma vie, la future ma vie, la nature ma vie, la future ma vie.
J'aboie, bulle mastif, la douleur qui résonne dans mon crâne. Elle pilonne mon humeur, bouche batteuse, langue rappeuse. Les excès font de moi le crevard. Quand je suis aujourd'hui dans mon lit, tu me suis dans ma vie, dans mon lit. Trois Xanax et j'oublie. Je me lève en colère, fond de bière de la veille. Sur la table, je le vois, regrettable, c'est pas moi. Mais c'est celui qui est chez moi dans ma tête. On est deux, un gentil, un vicieux. Pas de bulle, c'est dégueu, je repose la canette. C'est grandiose, c'est la fête, cendrier, cigarette. Je vomis dans l'évier. Je suis à vif énervé. Faut que je trouve du café. Chaque matin, les mêmes angoisses. Demain, c'est aujourd'hui, empire. Chaque matin, les mêmes angoisses. Tant qu'il y a du noir, y a de l'espoir. Chaque matin, les mêmes angoisses. Si chaque heure blesse la dernière tue. Les mêmes angoisses. Demain c'est aujourd'hui, empire. Chaque matin les mêmes angoisses. Tant qu'il y a du noir, y a de l'espoir. Chaque matin les mêmes angoisses. Si chaque heure blesse la dernière tue.